Expliquez-nous pourquoi vous dites ne pas vouloir nous donner de choc par vos révélations. Pour qui vous prenez-vous? Je vous crois fumiste. C'est intégral. C'est comme si la personne était dans la salle et avait posé cette question-là au micro, c'est tel quel.
C'est justement pourquoi je ne veux pas parler outre mesure, parce que si je parlais outre mesure, on me croirait fumiste. Alors, ça résout le problème.
Pourriez-vous nous parler du seul grand commandement qui nous a été donné, soit de s'aimer comme Dieu nous a aimés et non comme Satan nous a aimés?
L'homme connaîtra ce que veut dire intégralement l'amour lorsqu'il sera supramental. L'homme connaîtra ce qu'est l'amour en tant que principe lorsqu'il sera libre dans son intelligence et que ses sentiments n'affecteront plus son intelligence. Et au cours de l'évolution qui vient, l'amour de l'homme ou l'amour que connaîtra l'homme, ce sera un amour qui est à la fois intégré à l'intelligence et à la volonté. Ce ne sera pas un amour qui est basé sur des sentiments de forme qui sont liés à sa conscience astrale. Ce sera un amour qui sera logé dans le mental supérieur et qui permettra à l'homme de comprendre les lois de l'évolution. L'amour, lorsqu'il est conscientisé, permet à l'homme d'accroître en lui-même, sur le plan où il est, les forces de l'évolution. Et ce, à cause du fait qu'il y a une intégration totale entre les principes qui sont supérieurs en lui, l'intelligence, la volonté et cet amour-là. L'amour cosmique ne peut pas être vécu par l'homme dans les motifs. C'est une énergie qui est au-delà de l'astral de l'homme. C'est une énergie qui n'est pas contrôlée par l'ego de l'homme. C'est une énergie qui est canalisée dans l'homme lorsque ses centres sont ouverts et que ses plans de conscience ont été stabilisés par l'intelligence créative en lui, c'est-à-dire l'ajusteur de pensée.
On m'a toujours enseigné que l'âme était immortelle. Vous, vous dites qu'elle est mortelle. Serait-ce que moi, j'appelle l'âme ce que vous, vous appelez esprit ou énergie?
On dit que l'âme est immortelle parce que la mémoire continue à évoluer dans le temps. Le mot immortel veut dire qu'il ne meurt pas, c'est-à-dire qu'il ne cesse pas son activité. Or, effectivement, l'âme de l'homme ne cesse pas son activité, puisqu'elle est une réserve d'énergie qui s'harmonise avec d'autres énergies et qui forme dans la totalité de l'évolution ce qu'on appelle dans l'intelligence la conscience luciférique qui a été nécessaire parce que c'est justement cette conscience qui a permis de créer sur la Terre des corps denses pour que l'homme éventuellement en développe des principes au cours de l'évolution et que de ces principes éventuellement sorte l'esprit, c'est-à-dire cette énergie qui est transmutée lorsque sa conscience passe d'un stade inférieur à un stade supérieur par le biais du changement vibratoire du corps astral et du corps mental inférieur. L'immortalité de l'âme, le concept de l'immortalité de l'âme, c'est un concept qui explique une dimension de ce que l'on peut comprendre de l'âme, mais l'âme, au cours de l'évolution de l'homme futur, sera anéantie, c'est-à-dire que son énergie sera intégrée dans les principes inférieurs de l'homme pour que l'homme devienne un agent libre et que l'homme puisse accéder à un monde parallèle. La grande importance de l'âme dans l'homme, c'est qu'un jour, elle doit le servir plutôt que l'homme la serve. Et au cours de l'évolution, l'homme, l'ego, l'aspect expérientiel de l'homme, a servi à l'évolution de l'âme, à l'accumulation d'une mémoire, et au cours de l'évolution, ce sera le processus renversé où l'homme s'intégrera cette énergie pour dépasser et suspendre les lois de la matière.
Je voudrais savoir comment s'y prendre pour devenir le vrai homme. Qu'est-ce qu'on doit faire s'il n'y a pas de technique? Quoi faire? Y a-t-il une technique?
Le passage de l'homme du stage de l'homme au stage du sur-homme ou de l'homme conscient, c'est un passage qui est directement proportionnel à l'évolution de chaque individu. Et les hommes qui ont les corps leur permettant cette transmutation vivront naturellement ce passage. Et il n'y a aucun effort possible à faire parce que la transmutation de l'homme est faite de par en haut, elle n'est pas faite de par en bas. L'homme peut se spiritualiser de par en bas pour se préparer à la transmutation. Mais la transmutation elle-même, la mutation de l'homme, le changement vibratoire de ses corps sont effectués par la lumière et ce sont les chocs de cette énergie qui créent en lui la fusion et l'homme ne peut faire d'effort à ce niveau-là parce que tout effort chez l'homme, que ce soit un effort même positif, provient de son désir de s'améliorer. Et le désir d'amélioration est consistant avec la nature inconsciente de l'homme. C'est un désir qui est louable, c'est un désir déjà qui fait partie de la sensibilité de l'homme. Et c'est bon et grand que l'homme ait un tel désir. Mais lorsque le temps vient pour que l'homme passe d'un monde à un autre, d'un monde parallèle à un autre, ce désir est totalement ralenti et éventuellement il est détruit. Parce que l'homme ne peut plus se servir de son libre arbitre pour engendrer en lui des changements vibratoires qui sont essentiels et nécessaires pour le passage d'un plan à un autre. Ça fait partie de l'évolution de l'individu, ça fait partie de son plan de vie, et ceux qui sont marqués pour cette évolution la feront, et ceux qui ne sont pas marqués pour cette évolution ne la feront pas et évolueront dans d'autres plans parallèles.
Est-ce que c'est nous qui désirons de mourir ou quelqu'un qui décide pour nous? Et est-ce que l'on peut reconnaître quelqu'un qui est déjà décédé, qui est un être cher et qui est réincarné?
Ce n'est jamais l'homme qui décide de mourir, c'est l'âme qui le retire de l'action. Lorsque l'âme décide de retirer l'homme de la vie matérielle, ses énergies sont suspendues et il vit ce qu'on appelle la mort. Ses corps sont retirés, ils sont séparés, et c'est ce que la mort est. La mort, en fait, n'est pas aussi troublante que l'homme se l'imagine. Il l'imagine troublante parce qu'il est attaché à la matérialité par ses sens, mais lorsque l'homme vit soit le choc de la mort par l'accident, ou qu'il vit l'expérience de la mort par la vieillesse, il la vit d'une façon très régularisée, et petit à petit, ses corps se retirent et éventuellement il rend le souffle, et à ce moment-là, il y a un détachement total de ses corps, et la mémoire de l'homme, sa personnalité, se retrouve sur des plans parallèles dans le monde de l'astral, et il continue là-bas son évolution.
Pourquoi l'homme a-t-il créé la guerre? À quoi sert la guerre, la destruction de lui-même?
L'homme a créé la guerre parce que l'homme n'a pas compris les lois de l'intelligence. L'homme a créé la guerre parce que l'homme est aux prises avec une conscience extrêmement astralisée. L'homme a créé la guerre parce que ses émotions et son intellect brouillent l'intelligence. L'homme a créé la guerre parce qu'il n'est pas conscient. L'homme a créé la guerre parce que il est assujetti, sans le savoir, à des forces qui cherchent la désharmonie plutôt que l'harmonie. Et lorsque l'homme sera dans l'intelligence, il ne pourra plus créer la guerre parce qu'il ne sera plus affecté émotivement ou mentalement par ses forces qui sont dans l'astral de lui-même.
Allons-nous nous réincarner tant et aussi longtemps que nous ne serons pas devenus le vrai homme?
Pas nécessairement. Il y a des êtres qui meurent et qui ne cherchent pas à revenir sur un plan matériel. Par contre, il y a des êtres qui meurent et qui recherchent à revenir sur un plan matériel. Ça dépend du choix fait après la mort. Et le choix est toujours déterminé par la nature même de l'évolution, l'expérience de l'ego et la facilité qu'a l'ego à accéder à la totalité de son expérience antérieure emmagasinée dans la mémoire de l'âme. L'âme n'a pas toujours le désir de remplir ce que l'ego demande. Il y a des égos qui sont dans le monde de la mort et qui voudraient revenir sur la terre. Ils ne peuvent pas le faire parce que l'âme ne veut pas se réintégrer, parce qu'elle préfère attendre. Alors, ces égos doivent attendre. Par contre, il y a des égos qui ont la facilité de rapport avec l'énergie de l'âme et qui ont automatiquement accès à leur plan de vie antérieur et à leur possibilité de vie future. Et à ce moment-là, en les étudiant de près, ils peuvent se constituer un corps matériel pour s'incarner.
L'âme, créature luciférienne, que fait le côté de l'âme en contemplation?
J'ai dit que l'âme, la totalité des âmes est luciférique. La totalité des âmes est luciférique. Autrement dit, le principe luciférien n'a pas été encore expliqué dans sa totalité à l'homme, parce que l'homme est encore en voie d'instruction dans le monde. Et l'homme connaîtra un jour le mystère luciférien et saura que l'âme, la totalité des âmes dans le cosmos, constitue la totalité d'un principe qu'on appelle le principe luciférique. Mais l'âme individualisée possède la capacité d'aller dans les hauts plans de la conscience luciférique, qu'on appelle les mondes astro-spirituels. Que l'homme soit en contemplation dans le monde astral ou qu'il soit dans la déchéance astrale, il est toujours prisonnier de la forme et c'est ce qui constitue le grand mystère luciférien. C'est que ce que veut dire luciférien dans le langage de l'intelligence, c'est ceci: luciférien est tout ce qui est lumière en dehors du temps de la lumière. L'intelligence est dans le temps de la lumière et tout ce qui est lumière fait partie des étapes de l'évolution vers le matériel et c'est ce qu'on appelle le principe luciférien. Le principe luciférien, dans sa nature absolue, dans son intelligence absolue, est un principe essentiel dans l'évolution des mondes. Parce que dans les mondes, il y a des forces qu'on appelle négatives, comme il y a des forces positives, et ces forces sont nécessaires à l'équilibre des mondes. Les mondes ne peuvent pas exister en dehors de la polarité. Tout ce qui existe en dehors de la polarité, c'est la lumière. Alors, pour qu'il y ait polarité, pour qu'il y ait des mondes à l'extérieur de cette lumière, il doit y avoir polarité, et cette polarité sert, dans un temps, à constituer des principes inférieurs, comme son opposé, le positif de la polarité, constitue des mondes supérieurs qu'on appelle le monde spirituel, les grands mondes de l'illumination qui sont parcourus par les maîtres et les gourous.
Est-ce que la lumière est une réalité qui existe depuis toujours ou a-t-elle ses limites?
La lumière n'a aucune limite parce que la lumière est en dehors du temps. La lumière crée le temps dans son mouvement et automatiquement la lumière engendre, de par son mouvement, l'épaisseur de l'espace, et parce qu'elle engendre l'épaisseur de l'espace, elle est totalement sans limite, c'est-à-dire qu'elle n'a pas jamais à revenir à son point de départ, puisqu'elle est totalement en dehors de l'espace. Alors, il n'y a aucune finitude dans la lumière, il n'y a aucun début. C'est pour ça que souvent on dit que Dieu n'a pas de commencement et n'a pas de fin.
Qu'y aurait-il sur la Terre si l'homme n'aurait jamais existé?
C'est une question intellectuelle qui n'a aucun fondement dans l'intelligence de l'intelligence. Il n'y a pas de « si » dans l'intelligence. Ce qui est, ce qui est fu, et ce qui est sera reconnu, vécu. Tout est présent dans la lumière. Tout est présent dans l'univers au niveau de la lumière. Alors, les questions philosophiques qui cherchent à créer une temporanité au phénomène de l'évolution sont des questions qui viennent du bas de l'évolution, mais qui ne sont pas réelles dans l'intelligence.
Étiez-vous vraiment inspiré tantôt, ou si c'est votre intellect qui répondait?
Si c'était mon intellect, je me croirais intelligent. Si j'étais inspiré, je me croirais poète. Je ne suis ni l'un ni l'autre.
Je voudrais savoir s'il y a un moment donné, nous allons tous comprendre ces supposés mystères, si le Saint-Esprit va venir sur le monde comme dans la Pentecôte.
L'Esprit ou l'intelligence essaie d'étendre son siège sur le monde, mais c'est l'homme qui empêche la présence de l'Esprit en lui-même. C'est l'homme, de par son orgueil, de par sa vanité, de par son émotivité, de par les formes astrales qui constituent son inconscience, qui empêche la présence de l'intelligence en lui-même. Ce n'est pas la faute de l'Esprit, c'est la condition de l'homme. Et ce n'est pas la faute de l'homme, ça fait partie de l'évolution. L'orgueil est le plus grand obstacle à l'Esprit. Un homme qui est dans l'intelligence comprend que dans l'intelligence, il n'y a pas de place pour l'intellect et il n'y a pas de place pour l'orgueil. Dans l'intelligence, il n'y a que le vide. Et dans le vide, il n'y a que le plein, c'est-à-dire le mouvement de l'intelligence à travers l'homme. L'intelligence est très simple. Les mystères sont très simples et le secret du mystère sont très simples. Tout est très simple. Mais pour que la simplicité du réel soit reconnue par l'homme, il faut que son intellect, son orgueil, soit déplacé. Et il ne peut le faire par lui-même parce qu'il est déjà prisonnier de cet obstacle. Et c'est pourquoi, lorsque l'homme vit le contact de la lumière avec ses corps, il subit une transmutation, vit une souffrance qui brûle ce qui est astral en lui et qui le marque comme étant un fils de la lumière. Mais lorsque l'homme est fils de la lumière, il ne peut pas être fils de l'homme.
Sur le plan de l'intelligence, le cerveau comprend deux côtés, le côté gauche pour les sciences mathématiques, etc., le côté droit pour les perceptions de la clairvoyance, médiumnité, etc. Donc, si l'homme emploie que 10% de son intelligence, est-ce à dire que le cerveau droit contribuerait à 50% de l'intelligence, le cerveau gauche 50%?
L'intelligence de l'homme n'est pas dans son cerveau. Le cerveau est simplement un support électromagnétique pour l'intelligence. L'intelligence est de la lumière et elle fait vibrer les neurones. Et ce qui empêche l'homme de se servir de tout son cerveau, ce sont ses émotions et son intellect. L'homme n'était pas brouillé dans ses émotions et son intellect qui prennent extrêmement d'énergie de sa conscience. Il n'aurait plus d'intelligence. Il faut déplacer l'énergie, mais l'homme vit au niveau de l'énergie ici ou dans les plans inférieurs de l'intellect. Alors il ne peut jamais vivre l'intelligence ou l'énergie d'une façon totale. Et c'est pourquoi son intelligence est diminuée et que son cerveau ne fonctionne pas d'une façon parfaite. Ce n'est pas dans le cerveau que se loge l'intelligence. Vous avez eu des expériences dans les journaux dernièrement en Chine où on s'est aperçu que des jeunes hommes en bas âge avaient le pouvoir de lire des textes écrits par les talons. Alors si l'homme peut lire avec les talons, il peut lire avec les fesses. Autrement dit, l'intelligence n'est pas dans le cerveau. L'homme est fait de plusieurs plans d'énergie, dont le matériel, le cerveau, n'est que l'étape finale afin de lui permettre de recevoir cette énergie dans des conditions matérielles qui constituent l'homme. Mais en dehors du cerveau, il y a de l'intelligence, il y a l'esprit. Et l'esprit, lorsqu'il est libre de certaines forces qui constitue un aspect de l'homme, telle l'émotion ou les pensées subjectives, perd son pouvoir d'action, c'est-à-dire perd son pouvoir d'interception de cette énergie qu'on appelle la lumière ou l'intelligence.
Pourquoi est-ce que l'homme doit subir des anomalies au niveau du corps? Y a-t-il un message, exemple, des infirmités, etc.?
Les infirmités font partie de ce que les gens appellent le karma de l'homme. Ce sont des expériences que doivent souffrir l'individu parce que il y a une mémoire qui doit être rétablie. L'homme vit des infirmités, l'homme vit des accidents, l'homme vit des expériences de toutes sortes parce que l'homme est assujetti à l'âme. C'est pourquoi je dis, l'homme comprendra un jour l'importance de ne plus être assujetti à l'âme. Si l'homme n'était pas assujetti à l'âme, il ne vivrait pas d'infirmité, il ne vivrait pas de réincarnation, il ne vivrait pas de karma, parce que lorsque l'homme a détruit l'âme, qu'il a intégré son énergie dans ses principes, à ce moment-là, il n'est plus assujetti à la mémoire de l'âme, et automatiquement ce qui a été fait dans le passé et qui doit être revécu dans le présent afin de permettre un équilibre dans l'expérience de l'âme ne sera plus. Alors, les gens qui ont des infirmités, ce sont des gens qui vivent une expérience précise de l'âme pour rééquilibrer des activités de cette mémoire qui ont été vécues dans le passé par d'autres égaux qui font partie de la multidimensionnalité de l'expérience animique. Les gens, souvent dans le passé, dans l'âge de nos parents, dans la période de nos parents, disant « Comment ça se fait si le bon Dieu est si bon que moi j'ai un enfant qui soit de telle façon ou de telle forme ?» Et les gens souffraient de cette condition et ne comprenaient pas. Et effectivement, ce n'est pas que le bon Dieu est bon ou qu'il n'est pas bon, c'est qu'il y a eu des actions commises dans le passé qui doivent être rééquilibrées parce que dans le cosmos, tout doit s'équilibrer. Sans ça, ce serait la débandade. Alors, si un homme crée ou commet des actions à cause de son inconscience dans une vie, il y aura enregistrement dans la mémoire de l'âme, et quelque part dans le temps, il devra y avoir un ego pour vivre cette expérience, afin que soit rétabli l'équilibre de l'énergie entre le bien et le mal, entre le positif et le négatif. Et c'est justement l'équilibre entre le positif et le négatif qui permet l'évolution. Si l'âme vivait simplement des expériences positives, elle serait, l'homme, l'ego, serait totalement abruti, deviendrait un être végétatif, simplement, constamment en contemplation. Il n'aurait pas d'énergie pour créer des civilisations, pour mettre le métal au feu, pour créer des maisons, pour créer des routes, des ponts. Parce que l'homme qui est prisonnier de la spiritualité devient totalement incompétent dans le monde matériel. Et d'un autre côté, si l'homme a trop de vibrations négatives, à ce moment-là, il se plonge totalement dans le monde matériel et il peut facilement mener à la guerre et il oublie complètement les valeurs morales de l'homme. Alors, il faut qu'il y ait un équilibre entre le positif et le négatif, il faut que la polarité soit équilibrée et c'est ce qu'on appelle la réincarnation et c'est ce dont doit vivre l'homme. Et l'homme en subit l'expérience, l'homme en subit l'effet jusqu'au moment où il entre dans l'intelligence, c'est-à-dire jusqu'au moment où il a le pouvoir de subir constamment et d'une façon permanente la pénétration de l'intelligence. Et ceci détruit automatiquement la mémoire de l'âme et lui enlève sa propre mémoire subjective et remplace son intellect par une intelligence créative qui ne lui appartient plus, mais qui est canalisée en lui et automatiquement il n'appartient plus à la race de l'homme, à la cinquième race de l'homme, il appartient à une autre race. Et c'est ceci qu'on appelle l'évolution.
L'irrationalité, la folie douce peuvent-elles, mieux que notre logique cartésienne, nous permettre d'être libérés de l'assujettissement à la forme et peuvent-elles être considérées comme un bon moyen de détruire l'âme?
La folie douce, vous dites?
Et oui, la folie douce et l'irrationalité.
Tout ce qui est irrationnel, tout ce qui est un peu marginal, ce qui est un peu fou, ce qui est un peu... bon... Parlons de deux sortes de folie. Parlons d'une folie intelligente et d'une folie folle. Il y a la folie folle. Alors, la folie folle, les gens qui sont foliés, ce sont des gens qui sont totalement contrôlés par l'astral, à un point tel que leur volonté est totalement affaiblie et que leur intelligence est totalement neutralisée. Ils n'ont plus le pouvoir de discerner, ils n'ont plus le pouvoir de reconnaître la réalité matérielle, ils n'ont plus le pouvoir de créer en eux un équilibre et de vivre une vie sur le plan matériel qui soit normale. Les psychiatres, les psychologues font de leur mieux pour aider ces gens et d'une façon surprenante, ce qu'ils font, c'est que en leur donnant des pilules, ils tuent justement la mémoire. Les pilules ou les médicaments qui sont donnés par la psychiatrie à l'homme tuent dans l'homme la mémoire. Autrement dit, le contact avec l'astral, ici, ce qui permet à ces gens souvent de se rétablir un peu. Ça, c'est un des bons aspects de la psychiatrie. dans le cas de la douce folie, c'est-à-dire dans le cas de l'homme qui réalise qu'il est différent, qu'il pense différemment, qu'il voit différemment, qu'il ne se sent pas comme les autres, qu'il ne se sent un peu marginal, cet homme qui se sent un peu marginal, mais toujours intelligent, a énormément de potentiel parce qu'il est déjà en voie de comprendre ce que la masse en général ne comprend pas et ne veut pas accepter. Et automatiquement, s'il poursuit dans la ligne de sa propre démarcation, il peut facilement, avec les années, en venir à développer une intuition très puissante qui lui permettra d'atteindre petit à petit une certaine centricité qui, éventuellement, pourra lui permettre de percevoir l'intelligence en lui-même. Et s'il continue dans cette option, et s'il n'a pas peur de lui-même, s'il n'a pas peur de la façon dont il voit les choses, s'il n'a pas peur de la façon dont il pense, s'il n'a pas peur d'accepter des données qui ne sont pas écrites dans les livres et qui renversent la tradition, il commencera à entrer dans les mystères de l'intelligence, et éventuellement l'intelligence grandira en lui, et éventuellement l'intelligence l'éclairera, et éventuellement l'intelligence le rendra libre. Mais à ce moment-là, il n'appartiendra plus à la cinquième race de l'homme.
Est-ce que toutes les âmes ont été créées au début des temps?
C'est une question très intéressante. L'âme, dans sa structure, est un atome. C'est-à-dire que l'âme est une condensation d'énergie extrêmement grande. Et cet atome doit évoluer. Et lorsqu'il y a eu séparation dans le temps entre les forces de la lumière et ce que l'on a appelé les forces lucifériques, il y a eu la manifestation dans les échelles de temps de certaines particules, de certains atomes, qui sont les âmes. Et ces âmes se sont développées au cours de l'évolution, ils ont fait différentes pérégrinations, et ils ont enregistré différentes expériences, et avec les temps immenses, innombrables, Lucifer est devenu de plus en plus vaste. Et plus Lucifer est devenu vaste, plus le pouvoir de Lucifer est devenu grand, parce que plus la mémoire totale est devenue grande et infinie. Et de cette mémoire infinie et très vaste, qui au cours des temps s'est développée, est issue ce qu'on appelle l'intelligence, l'émotion de l'homme. L'homme est le produit, ce n'est pas ce que les gens interprètent comme étant la mémoire cosmique. La mémoire cosmique est réellement la totalité des impressions enregistrées par l'âme collective dans les mondes supérieurs pour bénéficier à l'évolution et pour permettre que de plus en plus de grandes forces s'intègrent avec la matière pour que descendent dans la matière le plus souvent possible de ces particules qu'on appelle les âmes, afin que se construisent de plus en plus dans la matière des mondes denses, des mondes matériels, pour permettre plus tard que ces mondes se relâchent et engendrent une autre vibration, qui est la vibration de l'intelligence créative. Il y a dans le cosmos, dans les mondes invisibles, des êtres qui ont passé ce stage d'évolution, il y a des êtres qui n'ont pas passé ce stage d'évolution, et l'homme fait partie de ces êtres, bien qu'il n'ait pas le pouvoir ou la conscience des autres, mais le phénomène est le même. Tous les êtres dans tous les univers doivent devenir libres, c'est-à-dire qu'ils doivent un jour appartenir à la hiérarchie. Et lorsque les êtres appartiendront à la hiérarchie, ils verront que les âmes qui avaient été créées dans les temps immémoriaux ne seront plus. Et lorsqu'il n'y aura plus d'âmes dans le cosmos, dans les sept super univers, il n'y aura plus de conscience luciférique, il n'y aura plus de bien, il n'y aura plus de mal. Et c'est ce que les hindous appellent la période du Mahanvantara. Ce sera le silence total parce que l'évolution sera terminée et que la lumière, une fois de plus, sera seule. Et à ce moment-là, les personnalités, les mémoires, de toutes les expériences infinies dans tous les systèmes ne serviront plus à rien. Et on dira à ce moment-là que Dieu est parfait. C'est-à-dire que la lumière sera descendue dans tous les mondes, qu'elle aura fait son trajet en passant par le mouvement de la forme et éventuellement en ayant créé la fusion avec la forme pour perfectionner la forme d'une façon totale. Et lorsque ce n'est plus nécessaire, c'est parce que l'homme ne peut plus s'alimenter de ses écoles, parce que il est arrivé au point de sa vie où il s'alimente de sa propre intelligence. Alors, toutes les écoles dans le monde sont des marches, et l'homme, un jour, doit arriver au sommet de l'escalier afin de marcher seul, parce qu'un jour, il n'y aura plus de maître dans le monde. L'homme sera maître de la vie. Alors, les écoles remplissent leur fonction, leur rôle. Ce sont des fonctions et des rôles qui sont louables, qui sont essentiels, d'ailleurs, pour l'humanité, parce que si ces écoles n'existaient pas, l'homme serait prisonnier, sorte de forme de raison. Alors, ces écoles soutiennent dans l'homme un peu de vie, lui donnent un peu d'espoir, mais l'homme, un jour, doit marcher seul devant lui-même afin d'entrer seul dans la lumière. On ne rentre pas dans la lumière en école, on entre dans la lumière seul et totalement nu, dans l'émotion et dans le mental.
Et les Melchisédek, dans tout ça, leur rôle et leur fonction?
Les Melchisédek sont des êtres qui parcourent un peu partout les mondes pour aider à l'évolution de ces mondes. Et comme ils sont en dehors de la forme et connaissent les lois de l'énergie, ils créent dans les mondes qu'ils connaissent des conditions pour l'évolution de ces mondes, de ces races. Ce sont des êtres qui sont nobles, ce sont des êtres qui sont libres, et ce sont des êtres qui sont parfaitement conscients d'eux-mêmes.
Cela va-t-il plus loin que la justice? Alors, où situez-vous la justice dans tout ça?
Quelle justice?
La justice. Y a-t-il encore, alors j'en prends du début là, y a-t-il encore intérêt de faire la différence entre le bien et le mal, tantôt vous avez répondu, si oui, est-il l'homme le canal qui réunira les deux forces? Cela va-t-il plus loin que la justice?
Question intéressante. Tant que l'homme est inconscient, il a besoin du sentiment de justice, il a besoin d'agir dans un cadre de justice, parce que la justice, quand il est inconscient, et en fait l'équilibre qui permet à des forces positives de contrôler les effets de forces négatives. Tout doit aller vers le meilleur, le plus harmonieux, le plus calme, le plus beau, le plus grand. Tant que l'homme est inconscient, la justice le sert, bien qu'elle ne soit pas parfaite sur le plan matériel, c'est normal, parce que l'homme est inconscient. Mais lorsque l'homme sera conscient, lorsque l'homme sera dans l'intelligence, il n'aura plus à vivre du sentiment de la justice, il n'aura plus besoin du sentiment de la justice, parce qu'il vivra dans un plan où tout ce qui sera fait sera parfait. La justice existe parce qu'il y a une perfection dans le monde. S'il y avait perfection dans le monde, il n'y aurait pas besoin de justice. Mais comme il y a une perfection dans le monde, il ne peut pas y avoir de justice parfaite. Mais il y a une justice relative, et cette justice relative qui est maintenue en vie par les systèmes de gouvernement, par les systèmes que nous connaissons, doivent être maintenues le plus possible en vie par les hommes inconscients qui constituent le matériel de base de toute société. Dans une société, lorsque la justice s'effrite un peu trop, il y a une perte énorme d'énergie, et les hommes éventuellement s'astralisent à un point tel où ils n'ont plus confiance ni en eux-mêmes ni aux autres. Alors il y va du bien-être de l'homme inconscient de maintenir le plus possible, même s'il y a imperfection, les formes qui constituent pour lui un mouvement vers l'ordre. Et bien que l'on ridiculise souvent la justice, que l'on ridiculise la légalité, que l'on ridiculise les tribunaux, Dans le fond, ce que nous ridiculisons, ce sont les faiblesses de l'homme à l'intérieur de ces systèmes. Ce ne sont pas les systèmes eux-mêmes. Parce que si jamais vous prenez la peine d'étudier en profondeur les codes légaux, les structures qui ont été établies par des hommes au cours des siècles pour l'évolution des civilisations et l'évaluation des activités de l'homme dans la société, vous verrez qu'il y a beaucoup d'intelligence dans ces systèmes. Ce sont les hommes qui vont contre le sens de la justice. Ce n'est pas la structure elle-même qui fait partie de la civilisation qui est nécessairement anti-homme. Et tant que l'homme sera inconscient, et tant que l'homme ne sera pas maître de la vie, tant que l'homme sera dominé par l'homme, tant qu'il n'aura pas été libre dans la vie à tous les niveaux, l'homme aura besoin de justice, parce que c'est la seule force qui peut permettre de maintenir l'équilibre afin d'empêcher les hommes de se détruire.
Tout à l'heure, vous avez
sur le plan cosmique, si on me demande est-ce qu'il y a justice sur le plan cosmique, je vais répondre de cette façon. Dans les mondes, à plus ou moins de perfection. Et c'est là où il y a une plus grande perfection qu'il y a une plus grande justice. Il y a où il y a une moins grande perfection qu'il y a une moins grande justice. Et si vous allez dans le monde de l'astral, dans les plans astraux, dans les hauts plans de ce monde, de ces mondes, vous verrez qu'il y a beaucoup de justice dans les plans supérieurs. Si vous allez dans les bas-fonds, il n'y a pas de justice. Si vous sortez du plan astral et que vous allez dans l'éther, si vous allez dans les mondes de la lumière, dans les mondes où le réel est totalement mental, à ce moment-là, vous verrez qu'il y a simplement de la perfection et que le phénomène de la justice n'est plus nécessaire parce qu'il n'y a plus de polarité dans ces mondes.
Tout à l'heure, vous parliez des élus. Vous dites qu'il y a un peu d'élus. Qu'arrive-t-il des non-élus? Que font-ils? Où vont-ils?
Ceux qui doivent vivre la mort matérielle continuent à évoluer dans les mondes invisibles. L'homme doit continuer à évoluer. Et peut-être que qu'un ego qui retourne sur les autres plans et décide de s'incarner dans un futur quelconque, éventuellement viendra la fusion. Tous les hommes vont vers la fusion. Tous les êtres, que ce soit demain, que ce soit dans 10 ans, 100 ans, 1000 ans, les êtres vont vers la fusion. Ce n'est pas important d'être élu. Ce qui est important, c'est d'être conscient. Si l'homme s'attache à être élu ou à ne pas être élu, il va s'inquiéter. Il va avoir la crainte de manquer le bateau. Et ça, c'est une inquiétude qui est spirituelle. L'homme ne doit pas craindre de manquer le bateau, d'être élu ou de ne pas être élu. L'homme doit aller vers la conscience. Et s'il va vers la conscience, même s'il doit mourir parce qu'il n'a pas suffisamment la capacité de subir le choc de la lumière, il continuera à évoluer dans des mondes qui sont parallèles à son évolution. Et un jour ou l'autre, il reviendra dans la matière, sur une planète ou sur une autre, et il y aura fusion. Alors, la question n'est pas est-ce qu'on est élu ou qu'on n'est pas élu. La question est est-ce que l'on est intelligent ou est-ce que l'on est en dehors de l'intelligence. Et plus on va vers l'intelligence, plus la chance de vivre l'expérience du passage d'un plan à un autre se manifeste parce que justement, plus le corps astral se désengage, plus le corps mental s'élève, et plus l'homme entre dans la conscience supramentale, qui est la conscience de la race nouvelle.
Si les mortels sont en chômage, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas devenir mortel? À quel moment l'âme se détruit-elle pour devenir intégrée à la volonté, l'intelligence et l'amour?
Demandez-moi la première question.
Si les mortels sont en chômage, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas devenir mortel?
L'homme ne peut pas forcer l'immortalité. L'homme ne peut pas faire quelque chose pour devenir immortel. Ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie... Chercher l'immortalité, c'est un désir spirituel. Tous les hommes, il n'y a pas un homme sur la terre qui ne voudrait pas être immortel. C'est normal, parce qu'il y a continuité de conscience. Alors, c'est un désir spirituel. Et ce désir ne peut pas être rempli de par la condition de l'homme. Cette condition est remplie de par l'évolution de l'homme. Alors, pour l'homme qui s'immortalise, l'immortalité est le résultat de son évolution. Alors, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas immortalité, il y a mort mortelle, mais il y a conscience plus élevée dans les mondes parallèles. Et à ce moment-là, au cours de l'évolution dans ces mondes, l'homme est en position pour revenir dans des conditions matérielles plus bénéfiques pour faciliter la fusion et pour accéder à la fusion d'une façon plus rapide. C'est quoi l'autre question?
À quel moment l'âme se détruit-elle pour devenir...
L'âme se détruit de deux façons. Dans la fusion, l'âme se détruit d'une façon instantanée parce que l'homme perd la mémoire et la personnalité est au service de l'esprit. Et l'homme entre automatiquement dans l'intelligence. Si l'homme va vers la fusion d'une façon graduelle, l'âme se détruit graduellement parce qu'il y a petit à petit perte de mémoire. Un des grands signes de l'immortalité, du mouvement de l'homme vers l'immortalité, c'est la perte de plus en plus grande de la mémoire et l'incapacité de plus en plus évidente de ne pas pouvoir se servir de son intellect.
Y a-t-il un créateur à l'infini?
Une question intéressante. À l'infini, il y a quatre points, quatre feux, que j'ai déjà appelés les alephes. Et c'est de ces feux que tout est issu. C'est de ces feux qu'est issu la lumière. C'est de ces feux qui est issu tout ce qui doit être. Et tous ces feux ne sont pas allumés. C'est-à-dire que tous ces feux ne sont pas en mouvement dans le cosmos. C'est pourquoi je dis qu'il y a dans le cosmos trois alephes manifestés, l'intelligence, la volonté et l'amour, mais il y en a d'autres, et ces autres feux seront allumés au fur et à mesure que l'évolution se fera. Mais l'homme doit apprendre à ne pas considérer ces alephes, ces feux primordiaux, comme étant un aspect du divin. Parce que dès que l'homme pense en termes du divin, il abrutit son intelligence. L'homme doit considérer qu'au cours de l'évolution, tout s'intègre, de sorte que même l'unité biologique pensante, l'unité biologique qui a accès à d'autres niveaux d'intelligence, fait partie de tout ce mouvement. De sorte que si l'homme fait partie de ce tout, au fur et à mesure qu'il avance dans l'évolution, il est évident qu'au fur et à mesure qu'il avance dans l'évolution, il connaît de plus en plus les lois de ce tout, mais en connaissant les lois de ce tout, il diminue en lui l'émotion et l'intellect subjectif primitif de l'homme de la cinquième race, qui l'assujettissent à une forme qui empêche cet homme de reconnaître en lui-même la même énergie dont trois principes sont manifestés dans l'univers, l'intelligence, la volonté et l'amour. Dès que l'homme parle de Dieu, il diminue sa grandeur, mais il élève sa spiritualité.
Au moment où l'homme sera esprit...
Et lorsque je parle de la grandeur de l'homme, je parle de la puissance des trois principes dans l'homme. Parce que la puissance dans l'homme, c'est la manifestation de la volonté, de l'intelligence, de l'amour. Et si l'homme, à cause des principes inférieurs qui ne sont pas subordonnés à cette énergie, se voit forcé de vivre à l'intérieur d'une forme astrale, bien que cette forme astrale soit sacrée de très belles tenues, il diminue sa puissance, c'est-à-dire qu'il diminue sa capacité de recevoir et de vivre de cette énergie.
Pourquoi les intelligences s'occupent-ils de l'accomplissement de l'homme? N'ont-ils pas d'autres choses à accomplir?
Les intelligences s'occupent de toutes sortes de choses. Il y a beaucoup à faire dans la ville de Montréal. Imaginez-vous ce qu'il y a à faire dans l'univers.
Bernard de Montréal, êtes-vous un des élus?
Est-ce que je suis un des élus? C'est une question intéressante. Je n'y ai jamais pensé. Et comme je n'y ai jamais pensé, ça ne m'inquiète pas. Et comme ça ne m'inquiète pas, ça ne m'inquiète pas.
Bernard perd la mémoire. Est-ce que c'est comme avoir oublié?
Perdre la mémoire dans le sens dont je le parle, c'est ne pas être capable de se servir de sa mémoire subjective à volonté. Perdre la mémoire dans le processus de transmutation, c'est ne pas être capable à volonté de colorer la vie de l'intelligence subjective selon le bon plaisir de l'ego. Perdre la mémoire dans ce sens, c'est être incapable d'être intelligent dans le sens de l'homme. Être incapable d'être assujetti à des formes et à répéter des formes qui font partie de la tradition de l'intelligence de l'homme. C'est être obligé de canaliser une autre intelligence qui n'est pas de l'homme, mais qui passe dans l'homme et qui nourrit l'homme.
Ouais, moi, je ne voulais pas ridiculiser au membre Mikhail Ivanov en prenant sa même intonation de voix, là, parce qu'il y a des gens qui le connaissent. Peut-on se protéger des extraterrestres retardataires?
C'est une question complexe. Je donne un exemple. Un homme peut être dans un champ et entrer en contact avec des êtres qui viennent d'un autre espace et être malmené par ces êtres. Non pas parce que ils veulent le malmener, mais parce que son émotivité fait vibrer tellement ses corps qu'il peut être brûlé par leur présence. Alors, ce n'est pas la faute de ces êtres, dans un sens, c'est la condition de l'homme. D'autre côté, ces êtres qui connaissent les conditions de l'homme et qui s'avancent vers lui et qui le savent comme étant un être effectivement lié à ses émotions, ce qui entraîne dans leur contact certaines brûlures, certains changements dans son biologisme ou dans son psychisme, ces êtres devraient, s'ils étaient des êtres qui s'occupent de l'évolution et de l'aide réelle à l'homme, se retirer. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce que l'on peut se protéger de ces êtres? Toute l'expérience de l'homme fait partie de la mémoire de l'âme. Et un être qui est brûlé par ces êtres, ou qui est affecté par ces êtres, son expérience est toujours le résultat d'une programmation essentielle à l'évolution de l'âme. Ce n'est que lorsque l'homme est conscient, que lorsque l'homme est dans son intelligence, que ses champs d'énergie sont suffisamment développés pour qu'il ne puisse pas être infirmé par une vibration étrangère, que l'homme ne peut pas être affecté ni par ses êtres, ni par l'astral de ses êtres, ni par l'astral. La sécurité de l'homme, c'est sa centricité, c'est sa fusion, c'est l'intégration totale de l'infini en lui et du matériel, de ses principes supérieurs avec des principes inférieurs. La sécurité de l'homme, dans le fond, c'est l'équilibre entre son émotif et son mental, et son supramental, et son vital, et ainsi de suite.
Puisqu'il a été déjà prouvé scientifiquement que des êtres supérieurs à nous ont déjà habité la Terre, comment se fait-il que pour un nouveau cycle, le nôtre, la race soit inférieure à celle qui a déjà existé?
Comment c'est ça?
Qu'il a déjà été prouvé scientifiquement que des êtres supérieurs à nous ont déjà habité la Terre, comment se fait-il que pour un nouveau cycle, le nôtre, la race soit inférieure à celle qui a déjà existé?
La dernière partie.
Comment se fait-il que pour un nouveau cycle,
oui,
le nôtre, la race soit inférieure à celle qui a déjà existé sur la Terre?
Qui vous dit qu'elle soit inférieure?
Scientifiquement, il y a eu la preuve qu'il y a eu des êtres supérieurs à nous qui ont déjà vécu sur la Terre.
Mais oui, mais qui vous dit que les races qui viennent sont inférieures à celles qui sont venues avant?
Il y a l'histoire du paradis terrestre. Une des races inférieures dans les textes sacrés parlait d'un paradis terrestre où l'homme ne souffrait pas, ne mourrait pas, etc. C'est peut-être supérieur à maintenant.
Mais qu'est-ce que c'était le paradis terrestre? Le paradis terrestre dont on parle dans les textes, qu'est-ce que c'était?
C'est un lieu où l'homme vivait dans la présence de son Créateur avec lequel il avait un contact constant et continuel.
Oui. Un lieu où l'homme vivait. Mais quel était ce lieu? L'homme n'a pas toujours, l'homme racial, l'homme n'a pas toujours vécu sur le plan matériel. L'homme a commencé à vivre sur le plan matériel avec l'évolution, avec la manifestation adamique. Les corps homonoïdes qui existaient depuis des millions d'années n'étaient simplement que des réceptacles permettant à certaines âmes de faire des empreintes dans la matière pour corriger, s'il y avait lieu, des défaillances de l'énergie pour créer éventuellement des modèles nouveaux qui devaient réapparaître dans l'éthérique, ce qu'on a appelé la race lémurienne. Mais l'homme dans la race lémurienne vivait une condition de vie qui était totalement en dehors des sens matériels. Et ce n'est que lorsqu'il y a eu contact entre l'homme, cet homme, ou ces hommes, et des intelligences supérieures, que l'homme a commencé à perdre sa conscience éthérique pour la densifier, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu contact encore plus rapide, plus près avec ses êtres, pour qu'il y eut échange entre les fils de l'homme et les fils des dieux, ou les fils de l'homme, ou les filles de l'homme et les dieux. Ceci a donné naissance aux races humaines, à la race humaine. La race humaine n'existait pas avant ça. Il y a eu contact avec différentes intelligences qui sont venues de différentes parties de la galaxie, qui ont contacté l'homme, qui ont eu des rapports sexuels avec l'homme pour créer la race noire, la race jaune, et ainsi de suite. Mais avant cette race, avant la période raciale de l'humanité, l'homme déjà était, mais l'homme était dans des conditions qui n'étaient pas matérielles. Et le paradis terrestre de l'onde que l'on parle dans les textes n'est pas le paradis terrestre que l'on s'imagine quelque part en Afrique avec des raisins et des pommes. C'était une condition mentale de l'homme qui permettait à l'homme d'avoir le pouvoir sur la matière et le pouvoir sur les animaux parce que justement il était dans le pouvoir de sa conscience éthérique. Mais il a perdu cette conscience éthérique éventuellement lorsque le contact avec la matière s'est fait et que l'âme eut perdu le pouvoir de se retrancher à volonté. On ne peut pas invoquer les textes anciens selon l'intellect philosophique qui essaie de les comprendre. On doit comprendre les textes anciens selon les aspects de leur manifestation, mais de par le biais de l'intelligence qui éclaire l'intellect de l'homme, afin de permettre que l'homme comprenne les lois de l'évolution et les lois de l'évolution sans qu'il perde de l'énergie à se retrouver dans un temps où tout était rosé. Ce que vivra l'homme dans les cycles qui viennent sera de beaucoup plus grand que ce qu'il a vécu dans le passé. Et le paradis terrestre d'antan n'est rien comparé avec le paradis terrestre de demain, parce que ce qui était vécu au niveau du paradis terrestre d'antan n'était que la relation parfaite entre la matière et l'esprit. Tandis que demain, ce ne sera pas seulement la relation entre la matière et l'esprit qui sera parfaite, ce sera la relation entre la matière, l'esprit et l'intelligence.